Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Notre Bible dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît, et au verset 14, nous allons faire une lecture toute simple. Il y aura deux versets, nous continuerons dans un autre passage, un autre texte. Mais nous allons commencer par l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Et Jésus nous dit des choses qui vont nous servir d'appui pour notre réflexion, et nous allons découvrir certainement quelque chose d'inédit. Voilà. Donc, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Voilà ce que Jésus dit à ses disciples en la circonstance. Et il parle de ce qui va survenir sur ses amis, ses disciples, et ainsi leur donner de réaliser qu'ils vont être amenés à faire une expérience d'un genre nouveau, qui était peut-être simplement l'exception de quelques prophètes de l'Ancien Testament, mais ce qui viendrait sur le monde, ce qui viendrait sur les croyants vivant dans le monde, serait quelque chose de surnaturel, d'exceptionnel, qui va transformer leur vie. Il est parlé du Consolateur, il est parlé que ce Consolateur est l'Esprit de la vérité, qu'il est avec nous, avec vous, qu'il sera en nous et que Dieu viendra à nous. Alors on va réfléchir sur cette question. J'aimerais donner un complément à cette première lecture et nous allons tourner quelques pages de notre Bible, et je vous invite à aller lire dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11 et au verset 24. C'est simplement un court verset, et Jésus parle tout simplement à ses auditeurs, et il parlera d'Israël, le peuple d'Israël, et il leur dira ces choses, et on va expliciter les deux textes l'un avec l'autre. Parce que quand on lit comme ça et quand on aborde ces deux sujets, on se dit, mais il n'y a rien de commun. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de rapport entre le premier texte et le deuxième? Alors, Romains, chapitre 11, verset 25. Il est dit, Paul dit ceci, « Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, les Juifs, seront-ils greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. » Et ça, c'est intéressant parce que ces deux textes corroborent parfaitement dans le sens où il est question à la fois dans cette expérience du baptême du Saint-Esprit, et puis il est question également de l'olivier. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut représenter tout ça? Quelle similitude y a-t-il entre les deux? Je voudrais simplement dire, pour éclairer un peu préparer notre méditation, c'est que ce phénomène dont nous allons parler, qui est quelque chose d'une action intérieure de Dieu dans nos vies, pourrait tout simplement s'appeler, la greffe de vie. Nous connaissons nous avons souvent l'habitude d'entendre parler des greffes médicales, et qui sont aujourd'hui un secours et un véritable succès, cardiaque, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais il existe, et depuis toujours, depuis les temps immémoriaux, le processus de la greffe. La greffe dans le monde de l'horticulture, le monde de la plante. Et si vous permettez que je donne une prolongation, je parlerai de la greffe de la vie, la grève de vie et qui a donné l'homme nouveau. Être un homme nouveau, être une femme qui était transformée, changée, c'est bien ce que Jésus nous dit dans les deux textes. L'un où il nous est dit que l'Esprit de vérité, le Consolateur, viendrait sur les hommes et qu'il y aurait cette intimité, cette proximité, ce rapport d'une grande communion entre Dieu et sa créature. Puis d'un autre côté, les questions de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Un olivier sauvage ne donne que très peu de fruits. Par contre, celui qui était amendé, celui qui était amélioré, va donner des belles olives, naturellement. C'est un peu l'histoire que nous allons vous raconter, que nous allons partager ensemble ce soir. Vous remarquerez que, vous qui êtes lecteur attentif de la Bible, l'arbre, dans le récit biblique, est une image classique qui est... Cette image est porteuse d'un symbole très fort. Et très souvent, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il nous est souvent parlé de racines, il nous est parlé de troncs, il nous est parlé de branches et de feuillages, il nous est parlé de tout simplement de fleurs et de fruits. Vous l'avez remarqué, hein ? Que ce soit dans le livre de la Genèse, jusque dans le livre de l'Apocalypse. C'est une métaphore, c'est une explication, dont Jésus d'ailleurs s'est servi, hein, d'une manière parabolique, pour enseigner. Et ceci tout simplement pour dire ou dépeindre le mystère que pose notre humanité. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Et nous ne comprenons pas toujours d'où nous venons, et surtout où nous allons. Et l'arbre, justement, est choisi comme emblème, l'olivier en particulier, puisque c'était l'emblème d'Israël, pour nous montrer qu'une humanité qui n'a pas de racines, une humanité qui n'a pas sa force dans sa foi, imagez le tronc, qui a un feuillage flétri moralement et spirituellement, qui ne porte pas, qui n'est pas beau, une humanité qui n'est pas belle à travers eh bien, toutes ces œuvres de corruption, de méchanceté, de haine, toutes sortes de choses. Et quant aux fruits, alors à ce moment-là, eh bien, ce sont souvent des fruits amers, des fruits qui séparent, qui divisent les hommes. Donc c'est pour ça que l'arbre est pris en, tout simplement d'une manière emblématique. Nous allons examiner, si vous voulez bien, et peut-être que vous avez quelques notions, je ne sais pas si vous avez fait de la botanique, mais ça ne va pas être très compliqué ce soir, on ne va pas rentrer dans les subtilités de cette science, mais toujours est-il que tout le monde peut le comprendre, parce que nous sommes bénéficiaires tous les jours de la valeur de ce qu'est une greffe, figurez-vous. Les fruits que nous partageons, que nous mangeons, les légumes que nous pouvons dans certains cas, ce sont des améliorations, hein. Parce que si on se contentait finalement eh bien, de fruits, enfin d'arbres sauvages, avec des fruits qui seraient le produit de cette nature qui pousse sauvagement, eh bien je peux vous dire qu'on aurait certainement des surprises, mais on peut toujours se procurer des fruits qui sont beaux, qui sont savoureux, qui sont juteux, etc., à cause de la greffe. S'il n'y avait pas ça, eh bien, il y aurait probablement moins de récoltes. Il y aurait certainement eh bien, là, une pénurie quelque part. Alors on ne s'en aperçoit pas, mais ça fait partie de notre vie quotidienne, dans un certain sens. Alors nous allons examiner justement cette pratique arboricole que l'on appelle la greffe, dont je vous l'ai dit, et qui est une opération faite par le cultivateur, l'horticulteur, l'arboriculteur, qui consiste, écoutez bien, à sauver, qui consiste à régénérer, c'est-à-dire à rendre la vie à un produit, à un arbre, un arbuste, souvent un arbre fruitier, parce que c'est ça ce qui est intéressant, et ou alors tout simplement de sauver, de régénérer, ou alors de faire revivre un végétal, de lui redonner la force, de lui redonner eh bien là, tout ce dont il a besoin pour être véritablement dans le but pourquoi il a été créé. Que ce soit un poirier, que ce soit un pommier d'une manière ou d'une autre, hein. D'ailleurs, on le voit bien dans les vergers abandonnés, vous savez, vous avez des toutes petites pommes, par exemple, elles sont toutes piquées, elles sont détruites et mangées par les insectes ou les oiseaux, ça ne donne pas grand-chose. Hein. Ils ne sont même pas savoureux, et souvent, ils sont amers, ils sont âcres. Donc, il y a cette pratique. Et nous voyons que c'est pour amener à faire revivre un végétal en insérant, c'est la technique, hein, dans son tronc, tout simplement un germe. Un germe vivant qui est prélevé sur un autre arbre, mais ce prélèvement est fait sur un arbre sain et un arbre en bonne santé que l'on va mettre sur un arbre malade. Voilà. Et ça ne paraît pas grand-chose, mais il va se passer un miracle. Il va y avoir un miracle. Et les hommes, depuis tous les temps, ont compris qu'il y avait une possibilité d'améliorer la production, d'améliorer le goût, d'améliorer la beauté, et toutes sortes de choses. Et figurez-vous que ce qui est intéressant, c'est que ce germe se nomme greffon. Ouais. Comme en médecine d'ailleurs. On prélève un organe, ou une partie d'un organe, on va le greffer là pour réparer, pour sauver le malade, pour qu'il puisse retrouver la santé, c'est-à-dire le régénérer. Parce que la maladie, elle détruit. Parce que toutes sortes de facteurs sont là pour détruire, tout simplement. Alors, c'est un greffon. On l'appelle aussi, en termes d'arboriculture, l'œil. Voilà, c'est une toute petite partie comme ça, c'est pas très grand. Hein. Et on va le mettre dans l'écorce d'un arbre qui est mourant, en quelque sorte, qui est moribond. Ou on l'appelle également le bourgeon. C'est pas le bourgeon initial de l'arbre qui est malade, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, et lequel va être mis donc glissé habilement sous l'écorce, et une écorce ou un arbre d'un arbre qui est vieux, qui est tout simplement malade, et il est maintenu par une ligature. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça vaut la peine. Hein. C'est tout simplement un petit lien qui tient tout cela, et l'agriculteur va faire la chose, il va couper avec une serpette, et puis il va introduire dans le cœur de l'arbre, sous l'écorce, et après il va ligaturer, et puis il laisse, tout simplement. La nature va faire le reste, c'est-à-dire que ça va prendre. Il va y avoir quelque chose qui va se faire entre eux, parce que c'est la même texture, c'est les mêmes cellules en quelque sorte, mais il y a un arbre qui est malade, et le greffon, il est sain. Et le processus, bon, va se développer de cette manière. J'aimerais, pour vous aider à comprendre, la chose suivante. On pratique la grève végétale pour redonner donc vigueur à un arbre qui est fatigué, qui est improductif, je répète, hein, et qui ne produirait pas de bons fruits sans qu'il y ait cette intervention de l'homme sur cet arbre. Je le répète encore une fois, ce qui va se produire, le résultat est un pur miracle de la biologie végétale. Ça s'explique. Les scientifiques, naturellement, vont l'expliquer. En d'autres termes, ce qui est quasiment mort va faire rejaillir un sujet vigoureux et fécond. C'est ça le miracle. De quelque chose qui est moribond, quelque chose qui est mort, eh bien il va en ressortir quelque chose de formidable, quelque chose de magnifique. Le greffon qui est sain va se nourrir de la sève du vieux tronc. Et les deux natures, le malade et celui qui est sain, tout simplement, c'est-à-dire la vieille nature et la nouvelle nature va former une nouvelle plante. Et c'est comme ça qu'on a rempli des hectares et des hectares de vergers avec des arbres fruitiers qui donnent une production que nous avons aujourd'hui, tout simplement. Et l'arbre est beaucoup plus résistant contre les insectes. Il est beaucoup plus résistant contre la maladie, contre les changements de climat, toutes sortes de choses. Il est plus fort en quelque sorte. Ce qui signifie que la mort du premier, cet arbre vieux et rabougri, la mort du premier va être emportée par la puissance de vie du second, le petit greffon qui va venir. C'est rien du tout, mais ce rien du tout va donner la vie à l'arbre, en quelque sorte. Et le naturel mauvais du premier va être absorbé par le pouvoir vivifiant du deuxième. C'est curieux, hein ? C'est pas le deuxième qui va être contaminé par le côté mauvais du premier, mais c'est le contraire, c'est le petit bout de greffon qui va donner la vie, finalement, à l'arbre malade. On dit qu'il y a à ce moment-là un mot que vous connaissez peut-être, osmose, c'est-à-dire qu'ils vont être unis ensemble et il va y avoir une puissance de vie sur la mort, en quelque sorte. Le bon l'emporte sur le mauvais. On pourrait peut-être résumer de cette façon-là. Alors maintenant, j'aimerais que nous donnions une application spirituelle à tout ça, parce que pourquoi parler de tout ça? Pourquoi la Bible nous parle-t-elle, finalement, de ces choses? Paul en parle, il parle de l'olivier, qui est l'olivier sauvage, et puis de l'olivier franc. L'olivier franc, c'est Israël, qui a reçu les révélations de Dieu, qui a la notion d'un Dieu créateur et d'un Dieu sauveur. Et puis l'olivier sauvage, ce sont les non-juifs. C'est-à-dire c'est nous, les uns et les autres, nos nations, qui n'avons pas été au bénéfice de ce que les Juifs ont reçu de la part de Dieu, Mais néanmoins, il y a une communication de vie qui va se faire. Autrement, on ne serait pas là ce soir. Le christianisme n'existerait pas dans notre monde. Non. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais on va aller beaucoup plus loin qu'Israël, parce qu'on sait qu'Israël, même s'il est présenté comme le greffon qui doit rendre le monde meilleur, et ça c'était la prétention de Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui n'a pas réussi parce que Israël a désobéi, Israël s'est tourné vers des faux dieux, il s'est tourné vers l'occultisme et la magie, donc ça n'a pas marché. Mais avec le Nouveau Testament, on voit qu'il y a un principe qui va émerger, qui est très intéressant, et je voudrais relire ce qui nous est dit dans Jean. Je le relis à dessein. Il est dit ceci, au verset, tout simplement Jean 14, verset 16, il est dit cette parole, « Moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera quelque chose d'autre, quelque chose qui vient du ciel, une puissance. » Je ne dis pas un pouvoir, mais une puissance. « Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, comme le greffon est uni à la vie avec l'arbre malade. Il demeurera éternellement avec vous. » Et il s'appelle l'esprit de vérité, où il n'y a pas d'erreur, où il n'y a pas d'autre à attendre que la vérité, que ce qui est bon, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais en ce qui nous concerne, et nous qui écoutons l'évangile ce soir, Jésus dira, mais vous le connaissez, et vous le connaissez comment? Parce que vous l'entendez. Vous l'entendez à travers les prédications, vous l'entendez à travers ce que nous sommes en train de partager ce soir. Alors vous le connaissez, car il demeure avec vous. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Mais plus encore, il sera en vous, comme la greffe rentre dans l'écorce de l'arbre et va y pénétrer profondément pour s'unir et créer quelque chose de nouveau. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Seigneur ne veut pas nous laisser, il ne veut pas laisser le monde dans sa médiocrité, dans ses haines, dans ses conflits, dans ses guerres, dans sa désespérance, dans ses angoisses. Mais lui, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai et moi je serai votre Père. C'est pour ça que Jésus nous a appris à dire notre Père qui est aux cieux. Nous ne nous adressons pas seulement à Dieu, mais notre Dieu est devenu plus que ça. Dans l'intimité filiale, il est devenu notre Père. Alors je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et nous croyons que le Seigneur vient vers tous les hommes qui sont dans des dispositions pour pouvoir l'accueillir. Et c'est encore Dieu qui nous donnera la compréhension des choses par son esprit, qui est appelé l'esprit de vérité. Et vous n'avez aucune crainte, le Seigneur ne nous conduira jamais dans l'erreur. Il ne nous conduira jamais dans les ténèbres, parce que Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Il ne nous conduira pas dans la confusion, puisque c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous pouvons le croire sur parole. Les mots qui sont donnés ont un sens, et un sens réel. Il est parlé d'un autre consolateur. Il est parlé d'un esprit de vérité. Il nous est dit qu'il demeure avec. Il est en plus en nous. Et Jésus nous dit, mais je viendrai à vous. Et ça, c'est un langage emblématique du greffon dont nous avons parlé. De la vie nouvelle qui est avec nous. La vie nouvelle qui est en nous et où Jésus vient vers nous pour nous donner tout cela. Et ça, c'est l'esprit. C'est une dimension de la vie de l'esprit. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de l'Église, nous parlons de ce que nous sommes les uns et les autres, nous ne faisons pas référence à une religion quelconque, mais nous parlons d'une vie. Nous ne parlons pas d'une tradition, mais nous parlons d'une expérience. Et ce que Jésus nous dit, eh bien, il l'affirme pour que nous puissions comprendre que pour naître de nouveau, eh bien, il nous faut l'Esprit de Dieu. C'est encore, eh bien, un cadeau que Dieu nous fait. Une religion, on rentre en religion, ou on est dans une religion par toutes sortes de dogmes, toutes sortes de cérémonies, par exemple, comme le baptême, par exemple, dans les religions du monde. Pour d'autres, ça sera autre chose, mais il y a toujours quelque chose d'initiation qui nous fait rentrer pour dire, eh bien moi je suis ceci, je suis cela, parce que je fais partie de ce groupe, de cette dénomination, d'une manière ou d'une autre. C'est jamais ce que Jésus a annoncé. Jésus nous a dit que c'était une rencontre réelle, puissante, vivante avec Dieu, à travers la personne de Jésus, et le seul lien qui nous met en rapport avec ce Dieu, et avec ce que nous sommes, créateur, créature, créature, créateur, eh bien c'est tout simplement la foi qui est tout simplement, eh bien, qui nous est donnée par ce que nous entendons, et ce que nous entendons, c'est ce que Christ nous dit, et qui est bien le fruit de l'action de Dieu par son esprit en nous. J'espère que je ne suis pas trop compliqué, mais ça va être de plus en plus simple. Bon, je vais essayer. Hein. C'est-à-dire que nous passons de la vie naturelle, sans la connaissance de Dieu, une vie charnelle, à la vie spirituelle, et de devenir une nouvelle créature. L'apôtre Paul l'écrira en lettres de feu dans les épîtres. Il dira ce qui est important pour un homme ou pour une femme, c'est d'être une nouvelle créature. C'est pas d'être catholique, protestant, évangélique, tout ce que voudrait, bouddhiste, musulman, tout ce que voudrait. Non, ce qui est important, c'est d'être une création nouvelle de Dieu. Les choses sont passées, et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes parmi nous dimanche matin, eh bien vous entendrez des témoignages de ce que nous sommes en train d'appliquer ce soir, où l'on peut entendre des gens qui nous disent, eh bien voilà, ce que j'étais avant de connaître Jésus et ce que je suis devenu après avoir entendu parler de Jésus et d'avoir cru en lui. Naturellement, c'est ça, une nouvelle créature. Comme le vieil arbre, la vie naturelle conduit à la mort, la Bible nous le dit, et produit ce qui est amer, l'angoisse, ce qui est périssable. Or, son contraire, c'est la vie spirituelle qui conduit à l'éternité, qui conduit à l'immortalité et produit des fruits qui glorifie Dieu, c'est-à-dire des fruits de bien. Si nous en tenons à ce que Paul nous enseigne dans le livre des Galates, il dira cette parole, il dira, mais le fruit de l'esprit, comme le fruit d'un arbre, eh bien le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits. Et ces fruits-là, le monde, en dehors de la connaissance de Dieu, produit le contraire. Un chrétien doit pouvoir manifester de l'amour. Même, et le summum, c'est justement d'aimer ceux qui ne l'aiment pas. Il doit pouvoir être une représentation de ce qu'est la joie et la paix. Si c'est un agité, quelqu'un qui est complètement perclus d'inquiétude et d'angoisse à mourir, ben, il manque quelque chose, il n'y a pas de fruit là, à ce moment-là. Il doit pouvoir manifester également la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, voilà tous ces fruits. Et ça, ce n'est pas nous qui pouvons les produire selon notre nature, parce que nous sommes charnels. Mais il y a une vie qui va venir, qui va être insérée à l'intérieur de nous-mêmes, et ce que nous ne sommes pas capables de faire naturellement, c'est Dieu qui va le faire d'une manière surnaturelle, par l'Esprit qu'il va nous envoyer. Un homme qui se nommait Nicodème, dont les propos nous sont rapportés par l'évangéliste Jean, et qui était venu poser cette question à Jésus, enfin interloqué et intrigué par ce qu'était le phénomène Jésus. Et cet homme était certainement bienveillant à l'égard de Jésus, mais il ne s'attendait pas à la réponse, il ne s'attendait pas à ce que Jésus allait lui dire. Et Jésus va lui dire, « Toi qui es un vieil homme de la religion d'Israël, tu as enseigné les autres, tu as parlé de Dieu, tu connais beaucoup de choses sur Dieu, mais tu ne connais pas l'essentiel. » Il dira, mais si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et notre brave Nicodème, il ne sait plus quoi penser dans cette affaire, il ne sait plus où il en est rendu. Alors il posera des questions qui nous apparaissent peut-être comme une sottise pour un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît beaucoup. Il dira, mais est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère et naître à nouveau? Jésus lui dira, mais c'est pas ça, tu n'as rien compris. Hein. Il faut que vous naissiez de nouveau de l'esprit de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui le produit en nous, selon nos dispositions, nos aspirations à aimer Dieu, à aimer la vérité, à aimer ce qui est juste. Alors à ce moment-là, c'est Dieu qui va le faire. Et il fera de nous un arbre nouveau, il fera de nous une plante nouvelle, tout simplement, si vous permettez, en restant naturellement dans l'allégorie, dans la pensée qui nous est présentée. Nous allons faire un pas de plus avec cette promesse biblique. Et vous allez voir que tout a commencé il y a très longtemps. Mais nous sommes encore sous le même régime, je pourrais dire, de malédiction naturelle. C'est peut-être le mot qu'il faut utiliser, je ne sais pas. Mais si nous venons, par exemple, au livre de la Genèse, au chapitre 3, il nous est parlé de quelque chose qui peut nous interpeller et puis nous aider à comprendre en même temps. Et dans ce chapitre 3 du livre de la Genèse, et au verset 13 et 15, il est dit ceci. L'Éternel dit à la femme, verset 13, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'ai mangé du fruit défendu. » Je paraphrase. Et le verset 15 nous dit, « Quand Dieu, maintenant, va maudire le serpent, le mal, le malin, Dieu dira donc à celui qui a séduit la femme, qui a entraîné l'homme, donc l'humanité, puisque le mot homme est sorti d'Adama. Adama, ça veut dire poussière de la terre. Adam, Adama, ça veut dire tout simplement l'homme, l'humanité, ce que nous sommes les uns et les autres. Et nous sommes tous de la même espèce. On n'apprend pas à un enfant à dire des mensonges et à faire des bêtises. Il sait le faire dès le départ. Donc il y a une nature. Il y a quelque chose de naturel, quelque chose de charnel. Le travail des parents, c'est d'amener un enfant qui a cette nature, comme tous les parents et les grands-parents et les ancêtres et les aïeux, etc. etc. On s'est tous donné en héritage la même nature. Mais le rôle des parents, c'est justement de corriger cette nature en lui donnant une éducation, en lui apprenant la politesse, le savoir vivre ensemble, toutes sortes de choses. C'est toute la vie comme ça. Mais ça ne gommera jamais cette nature qu'il y a au fond de nous-mêmes, quelquefois du mal, qui sert de faire du mal, de haïr, de mentir, de critiquer. Enfin, ça c'est l'univers finalement du péché, du mal qui est chez tous les hommes. Et les hommes se battent, les pouvoirs publics se battent contre ça. Mais ce n'est pas les lois humaines qui peuvent... Parce qu'on pourra bien mettre des millions et des millions de juges, de tribunaux, et puis de policiers ou de gendarmes, ça ne changera rien au problème. C'est parce que ce n'est pas les choses extérieures qui vont changer les choses. Il faut qu'il soit changé à l'intérieur. D'ailleurs, je crois que c'est Jérémie qui dit ça dans un de ses écrits. Il dira, mais le léopard peut-il enlever ses taches? Un léopard, ça détache. Moi, qu'il soit passé à la machine à laver ou au détergent, mais en tous les cas, il a toujours des taches sur lui. Voilà, c'est ça. Et un Éthiopien, c'est-à-dire une personne de couleur noire, il ne peut pas blanchir. C'est ça, c'est sa nature. Et la nature de l'homme, ça c'est physique si vous voulez, le léopard, et puis qu'on soit blanc ou qu'on soit noir, quelque couleur que l'on puisse avoir, ça c'est notre nature extérieure. Mais la nature intérieure, c'est beaucoup plus grave. Le monde moral, le monde de l'homme qui désire, qui aspire au bien, mais qui est quand même capable de faire le mal. Et beaucoup plus de mal qu'il pense. Alors il y a un changement profondément qui doit venir. Alors justement, Dieu va maudire le serpent qui a trompé la femme, qui a trompé l'homme, l'humanité, puisque je vous parlais d'Adam et Adama, ces poussières. Il nous est dit ceci, Dieu dira au serpent, je mettrai inimitié, je mettrai la haine, parce que c'est la traduction, et encore un mot qui est encore plus fort que le mot inimitié, entre toi et la femme, écoutez bien, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça a été pendant longtemps un texte que je n'avais compris que superficiellement. Ben, vous savez que c'est la première promesse de la Bible qui nous parle du salut de Dieu. Ouais. Où Dieu ne va pas abandonner son humanité qui est en train de sombrer dans le mal, dans l'enfer et dans la mort, mais Dieu va donner cette première promesse de salut. Et il la donnera à la femme. C'est curieux, pas à l'homme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a quelque chose de tout à fait significatif. Cette parole que nous devons lire, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Sa postérité te blessera le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la chute à l'espoir du salut. Parce que c'est par la femme qui a péché en écoutant le mensonge et qui a cru au mensonge plus que la vérité de Dieu, que Dieu est en train de préparer et a préparé le salut de l'humanité à travers, vous allez être surpris, à travers Ève qui a chuté et une autre femme qui est venue et qui fait son entrée dans l'évangile, elle s'appelle Marie. Marie. Pourquoi? Elles sont toutes deux des femmes qui ont péché. Mais elles ne sont pas les seules à pécher. L'homme est exactement au même niveau, même égalité. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Marie, Ève, c'est le tronc mort de l'humanité. Parce que je reviens à cette pensée de l'arbre. Je le rappelle, c'est le tronc mort de l'humanité où sera greffé, surtout pour Marie, un germe de vie. Et vous savez comment il s'appelle ce germe de vie? Il s'appelle Jésus. Dans le ventre d'une femme, d'une vierge qui s'appelle Marie, une quasi-adolescente qui vivait il y a très longtemps, enfin il y a 2000 ans, et ce germe s'appelle Jésus, tout simplement, dans un réceptacle mortel. Parce que Marie est mortelle. Alors il ne faut pas nous raconter des histoires quand on nous dit que Marie est ressuscitée, qu'elle est ceci et cela, etc. Elle était femme parmi les femmes, pécheresse parmi les pécheresses. D'ailleurs, quand vous lisez le début de l'évangile de Luc, vous allez tout de suite comprendre dans sa prière, quand elle prie de cette manière, elle parlera de Dieu son sauveur. Donc si elle a besoin de Dieu comme son sauveur, c'est qu'elle a besoin d'être sauvée. Ne disons pas plus, ne disons pas moins, mais ne disons pas plus, c'était une femme qui a eu un privilège unique, comme aucune femme n'aura sur la terre. Elle a donné naissance à la personne de Jésus, qui est vraiment lui, le sauveur. Il est le greffon. Il est en quelque sorte, eh bien, celui qui va amener, eh bien, le salut parmi les hommes. Alors, dans l'évangile de Matthieu, et c'est intéressant de refaire le recoupement avec ce texte qui nous annonce la naissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage? Matthieu, chapitre 1er, verset 18 d'abord. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Les siècles ont passé depuis Ève. Les hommes ont souffert, les hommes ont vécu 1000 morts depuis, sans espoir et sans espérance. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Alors, tous les moqueurs et tous les critiques, les athées et consorts sont pliés en deux de rire devant ce chose. Eh bien, c'est vraiment un manque de connaissance de ce que nous dit la Bible. Oui. Et d'ailleurs, les gens, quelquefois, quand ils sont incrédules d'une chose qui peut arriver, ils disent « Ah oui, les choses se sont passées par la vertu du Saint-Esprit », avec un sourire narquois. Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer le sens de ces choses. Alors, on va laisser ceux qui ne veulent pas croire, on va les laisser à leur incrédulité. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vient de l'intelligence de Dieu, là. C'est autre chose. Et au verset, toujours, verset 24, il est dit cette parole, « Comme Joseph pensait à répudier Marie, parce que quand il a appris qu'elle était enceinte et qu'ils étaient fiancés, et puis que lui, il était pour rien, alors à ce moment-là, il y a un ange du Seigneur qui apparaît à Joseph et lui dit, « Mais Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera avec vous. Il sera en vous. Et il vient à vous. » Ça se confirme. Elle enfantera un fils que tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de ce que nous avons chanté tout à l'heure, Emmanuel. Et vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel ? Dieu avec nous. Je dirais même Dieu en nous, parce qu'il est venu à nous. Emmanuel. C'est pas Dieu contre nous, mais c'est Dieu avec les hommes. Quelle que soit leur situation, leur condition, Dieu est venu vers nous pour relever ce défi, tout simplement. Marie, une fille d'Ève, on pourrait dire ça comme ça, pour donner naissance au Fils de Dieu, lequel, par son incarnation en venant sur cette terre, portera l'image de tous les nouveau-nés, de tous les enfants du monde, depuis toujours, jusqu'à la fin des temps. Et pourtant, c'est Dieu qui s'est incarné dans la personne d'un petit enfant qui s'appelle Jésus. Tout simplement, et lorsque Jésus va venir, il portera un autre nom, il est fils de Dieu, mais il se dira lui-même le fils de l'homme, parce qu'il a pris finalement toute notre condition humaine, physiquement, moralement, tout ce que nous sommes, à une exception près, sans le péché, sans le mal. Parce que Comment les hommes peuvent-ils se sauver eux-mêmes? Ils sont tous pécheurs, ils sont tous perdus et corrompus. Il n'y en a pas un qui peut sauver l'autre, puisqu'on est tous pareils. Peut-être sur des situations différentes, mais on est tous pareils. Il fallait que ça ne vienne pas de la terre, il fallait que ça vienne du ciel. Et Dieu, dans son plan qui nous éblouit et qui nous laisse dans l'incompréhension, eh bien, est venu sur la terre, il s'est incarné dans la personne de Jésus. Il a pris un corps pour véritablement la pureté du ciel et la sainteté du ciel marchent sur cette terre parmi un monde où il n'y a que le mal et que la mort, et que finalement il transforme les choses pour ramener cette humanité perdue bien justement à Dieu. La ramener vers Dieu, tout simplement. Alors, il portera le nom de Fils de l'homme. C'est souvent ce qui nous est dit dans l'évangile de Luc. Et on peut dire que la sève naturelle de cette humanité, peu à peu, va se transformer de nature. Elle va devenir spirituelle. C'est-à-dire de charnel que nous sommes, de naturel que nous sommes, d'animal même, parce que c'est le mot anima, d'animal qu'est l'homme. Parce que bon, voilà. Hein. Mais la différence des animaux, c'est qu'il a un esprit, l'homme. Un esprit qui est mort et qui a besoin d'être réveillé, qui a besoin de revivre. C'est le problème de cet arbre qui est moribond, qui est vieux, qui ne peut plus avancer, qui ne peut plus produire. Enfin, un arbre, ça n'avance pas. Mais je veux dire, hein, qui n'a pas de perspective, sinon de mourir hein, sur pied, c'est la greffe. Et cette greffe, on l'a déjà dit, on va le prolonger d'ici quelques instants. Mais pour que les choses se fassent, il a fallu que, par le sang et par la chair, Jésus s'identifie aux hommes. Et nous voyons que ce divin greffon qu'est Jésus conduira cette nature, pas la sienne mais la nôtre, cette nature mortelle, il la conduira jusqu'à la croix. Il faut que cette nature soit crucifiée. Jésus en a donné finalement l'exemple. Il faut que cette nature meure à la croix du calvaire. C'est toute l'histoire de Golgotha. Pour la faire mourir, c'est ce qu'on appelle la rédemption. En son propre corps, il fallait que Jésus connaisse la croix. Il fallait qu'il soit frappé, qu'il soit maltraité, qu'il soit flagellé, qu'il soit cloué à la croix, et qu'on en transperce finalement son côté pour qu'il meure à notre place. Il fallait que cette nature-là soit véritablement crucifiée dans son propre corps. Mais nous nous apercevons que 3 jours après, cette mort va réapparaître en vie nouvelle, éblouissante, comme la lumière, par la résurrection de Christ, et nous avec lui. Si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la mort de Jésus, et nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité, et nous avons sa vie. Et ce greffon, eh bien, nous l'avons au fond de notre cœur. Et ce greffon, la préparation, nous pourrions dire que le lien, la ligature qui nous tient, ou ce greffon qui est venu jusqu'à nous, eh bien c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous enseigne, elle nous tient près de Jésus. La prière nous tient près de Jésus, pour que la vie de Jésus passe dans ma vie, et que je ne sois plus le même homme, ou je ne sois plus la même femme, avec mes revendications, avec mon mécontentement, avec mon mauvais caractère, et que je sois transformé par les fruits que nous avons lus tout à l'heure. C'est la nature de Jésus qui passe en moi à ce moment-là. C'est autre chose. C'est une autre vie. Permettez-moi, c'est peut-être un peu de la doctrine ce soir, mais quand même, je pense que le Seigneur est capable de nous donner de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans tout ça. Dans Romains chapitre 6 et au verset 5 à 8, écoutez bien, c'est toute l'illustration qui nous est donnée à travers ce que je suis en train de dire. Il nous est dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, parce qu'il est mort, et moi je suis mort aussi avec Jésus-Christ, je suis mort avec à mon ancienne nature, à mes revendications, à mon, tout ce qu'il y a de mauvais en moi, alors il nous est dit, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme, le vieillard, vous savez, avec une écorce dure, raboteuse, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché, et c'est ce que nous devons être aujourd'hui. En tous les cas, nous tendons à l'être. C'est-à-dire que nous tendons à ressembler le plus possible à Jésus. Quand on voit, par exemple, dans le monde, de tous les temps et aujourd'hui, quand les gens parlent de leur idole, c'est une ressemblance. Alors on s'habille comme un tel, on fait comme un tel, on vit comme celui-ci, parce que c'est notre idole, on l'admire, on l'adore. On fait comme lui. Eh bien, le chrétien, lui, il a une idole, si vous me permettez, si le mot est impropre. Mais il a véritablement, eh bien, quelqu'un devant lui qui marche, qui l'admire et qui l'adore. C'est Jésus. D'avoir les yeux fixés sur lui et de le ressembler le plus possible. C'est le désir des chrétiens. Plus de retourner en arrière, mais d'avancer maintenant devant. Par le germe de vie divin qui a été déposé en Marie, on l'a vu, par ce phénomène surnaturel d'un enfant qui naît sans procréation avec finalement eh bien, la semence d'un homme. Jésus est le nouvel Adam, nous dit la Bible, qui sauve l'homme perdu, offrant gratuitement la régénération à quiconque le croit. On n'a pas besoin d'acheter les choses. Les religions nous ont dit qu'il faut payer à chaque fois. Bon. Et la Bible nous dit tout est gratuit. Si je le veux, c'est gratuit, c'est le cadeau de Dieu. On appelle ça la grâce. Tout simplement. Le tronc de l'arbre, porteur qui est mourant, comme l'humanité est mourante, n'a pas été changé. Oui, parce que l'homme reste toujours l'homme. Si vous vous posez la question en disant « je suis chrétien, mais j'ai encore des tendances, j'ai encore une nature », c'est la double nature que nous avons. Nous sommes à la fois eh bien, portés vers ce qui est en haut, ressembler à Jésus, et puis quelquefois ça nous humilie, hein. Quelquefois on se déteste nous-mêmes en disant « mais je reviens encore, il m'arrive encore de mentir, il m'arrive de ceci et cela, et ça nous répugne ». Et on dit « Seigneur, délivre-moi de ceci, ceci ou cela, il y a bien d'autres choses, hein, naturellement ». Et nous voyons que la nature va rester la même, mais elle va se transformer au fur et à mesure, c'est pas un miracle, hein. Moi, je me couche ce soir, je suis comme ça, et demain, je suis un ange. Alors, vous venez me voir demain, vous verrez que je suis à peu près semblable à ce que j'étais hier soir. Naturellement. Mais par contre, sur ce même arbre, les branches qui sortent du greffon, pas du vieux tronc, mais du greffon, qui représente Jésus, se couvrent d'un feuillage et de fruits magnifiques, des fruits nouveaux, ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce qui est gracieux, ce qui est bon, ce qui est désirable, qui est le symbole de l'activité de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit en moi. C'est Romains, ça. Romains, chapitre 7, chapitre 8. Lisez-le, vous verrez qu'il y a toutes sortes de choses qui nous sont enseignées dans cette dimension-là. La vie de l'esprit en moi, cette vie de l'esprit va faire mourir toutes les mauvaises racines, toutes les mauvaises choses, les rejetons, ce qu'on appelle en arboriculture les gourmands, vous savez, ces tiges qui s'en vont de tous les côtés, il faut les couper parce qu'autrement, il n'y aura plus de sève pour les bonnes branches. Et le Seigneur sait bien ce que nous sommes. Il sait très bien que quand on s'est converti, on n'est pas devenu des anges, on n'est pas devenu parfait. On reste avec notre nature et tant que nous serons dans ce corps d'humiliation, nous aurons encore ces combats et ces luttes. Mais la différence, c'est que nous voulons véritablement que ce qui va pousser, pousse à travers eh bien, toute la place que nous avons fait à Jésus dans notre cœur et dans notre vie. C'est encore une autre façon de penser les choses. L'esprit en nous. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les temps de la désharmonie, de la confusion et de la mort sont finis. La vie jaillit comme un fleuve. Comme Jésus va le proposer à la Samaritaine, dans ce texte merveilleux, où il dira ceci à cette femme, il dira, si tu connaissais le don de Dieu, et cette femme lui dit, mais elle va lui répondre d'une manière particulière, et Jésus va lui donner une précision, lui dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif de la vieille nature, de notre nature pécheresse. C'est sûr que si on revient à ce puits-là, on aura toujours soif, on sera toujours malheureux, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Comme quand on sait que le Saint-Esprit a pour symbole l'eau qui court. L'eau qui coule. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie que Jésus met en nous, c'est une puissance de vie, c'est pas une puissance de mort. C'est pour ça que notre foi, elle est ferme. Nous avons de l'assurance, et c'est pour tout le monde. Si quelqu'un se sent malheureux, si quelqu'un se déprécie et se dit « Mais moi, qu'est-ce que je suis? Je suis rien, je suis mauvais !» J'ai fait trop de mal. Eh bien, le Seigneur est capable de nous changer. Vous lui demandez pardon, vous vous repentez, vous tournez vers Jésus, ça s'appelle se convertir, et vous aurez une nouvelle nature, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça, il faut que vous le demandiez. Ça ne va pas venir tout seul. Il faut que vous le désiriez, que vous l'aspiriez profondément. Je termine. Cela illustre notre situation de chrétien sauvé. Si nous avons accepté Jésus de se greffer en nous, nous restons dans une apparente contradiction dont nous sortirons victorieux si nous persévérons. C'est pour ça que peut-être quelqu'un est venu en disant « Mais j'ai fait des bêtises cette semaine. » Vous avez fait des bêtises ? Ben moi, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas le seul unique. Il y en a d'autres. Ce n'est pas pour vous rassurer, mais c'est pour dire que c'est la nature humaine. Et c'est vrai que c'est une apparente contradiction, parce que nous prions en disant « Seigneur, j'aime tout ce qui vient de toi. J'aime le bien, j'aime ce qui est beau et ce qui vient du ciel. » Puis d'un autre côté, on est vraiment rat-terre. Hein ? On est rat-terre. C'est une apparente contradiction. Mais par contre, si nous persévérons dans la foi et que nous comptons sur son amour, nous allons y arriver. Comme la greffe va demeurer dans le cœur du tronc de l'arbre, et à un moment donné, elle va pousser. Et elle va transformer la nature de cet arbre qui est moribond. Oui, foi et amour, que l'on pourrait comparer à la sève céleste, elle vient d'en haut, qui nous prépare finalement et qui nous conduit au ciel, dans ce paradis de Dieu retrouvé que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Oui, c'est ça le paradis perdu. On voit qu'aujourd'hui, les hommes recherchent le paradis perdu, paradis artificiel, paradis illusoire, paradis qui ne sont que des mirages. Mais ce n'est plus un mirage lorsque nous rencontrons Jésus et que nous le regardons, que nous marchons, que nous avons les yeux fixés sur lui, notre cœur et nos yeux fixés sur lui, c'est lui qui va nous conduire. Mais est-ce que nous voulons accepter la greffe qu'il nous propose ? Et ce soir, il nous dit, est-ce que tu veux me faire une place dans ton cœur ? Est-ce que tu veux me faire une place dans ta vie ? Je suis prêt à venir. Nous serons attachés, nous serons liés l'un à l'autre. C'est ce que nous dit le livre de Job au chapitre 22, quand il est dit ceci, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix dans ton cœur, et tu connaîtras le bonheur. » C'est ça ce qu'il nous est dit. Il faut que la greffe, elle prenne. Alors à ce moment-là, eh bien, l'homme devient un être nouveau, une nouvelle créature. Et je termine par cette conclusion. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, il nous est dit cette parole, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Connaissez, hein ? Il est comme un arbre planté auprès des eaux, auprès des courants d'eau, et il étend ses racines tout simplement dans le courant. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il ne cesse de porter du fruit, le vieil arbre, l'arbre moribond, l'arbre qui est en train de mourir, qui ne peut plus porter ni de feuilles ni de fruits, eh bien, était complètement changé. Et c'est ce qui donne aujourd'hui l'Église que nous pouvons représenter les uns les autres. Nous ne sommes pas seuls, il y en a des millions et des millions et des centaines de millions dans le monde. Mais une chose qui est certaine, c'est que celui vers lequel nous devons nous diriger, celui qui nous est présenté un petit peu comme la greffe, comme le greffon, eh bien, il faut qu'il soit implanté dans notre cœur. Alors à ce moment-là, tout va changer pour nous. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons maintenant eh bien, nous incliner quelques instants et demander à Dieu qu'il fasse cette œuvre dans le cœur des hommes, dans notre cœur certainement, mais dans le cœur de tous ceux et de toutes celles pour lesquelles nous prions aussi. Alors on va incliner nos têtes et on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, parce que ta parole a mille facettes. Elle nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ta parole ce soir nous a rappelé eh bien, que nous étions dans notre humanité l'arbre mort, l'arbre qui ne peut pas porter de fruits, qui n'est pas capable, en effet, de durer, qui n'est pas capable de se reproduire. Mais nous voulons croire, en effet, Seigneur, que en nous donnant Jésus. Et tu as fait que Jésus vienne dans, Seigneur, cette humanité à travers une simple femme qui s'appelle Marie. Et ce greffon a donné celui qui est venu pour sauver les hommes. Et il a pris un corps. Et ce corps, il l'a cloué à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Pour que ce corps mortel, ce corps qui est en effet une humiliation, devienne véritablement, puisse mourir, pour que toi, ensuite, tu le ressuscites. Et c'est vrai, Seigneur, que la conversion d'un homme, c'est une résurrection. C'est un miracle. C'est véritablement, Père éternel, le produit du surnaturel, le produit de l'amour de Dieu pour les hommes qui sont perdus. Et nous te remercions et nous te louons, dans le nom de Jésus. Encore une fois, ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens dans mon âme, viens dans mes pensées, viens dans mon esprit. Seigneur, remplis-moi de toi. Et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, je puisse devenir un homme nouveau. Je puisse devenir une femme nouvelle. Et je puisse véritablement ressembler à Jésus. Pour, eh bien, après avoir été chassé du paradis de l'Éden, je puisse rentrer dans le paradis céleste avec Jésus. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.